RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Bonjour à tous et bon début de semaine. Ce matin dans Je pense donc j'agis, on parle écologie et numérique. On entend souvent dire que le numérique dans sa globalité pollue, mais qu'en est-il vraiment ? Dans la seconde partie de cette émission, à 10h, nous verrons comment agir à notre niveau contre l'obsolescence programmée grâce aux actions de deux associations, WeFund et un Repair Café parisien. Mais dans un premier temps, une question, écologie et numérique sont-ils compatibles ? On en discute avec nos deux invités et vos témoignages. Est-ce que la question écologique du numérique vous paraît être un aspect important des enjeux écologiques ? Vous sentez-vous concerné par ce sujet ? Essayez-vous d'avoir des pratiques numériques plus sobres et respectueuses de l'environnement ? Et sur un plan plus collectif ou politique, pensez-vous que la société devrait réfléchir à une limitation de la place du numérique dans nos vies ? On vous attend par mail à l'adresse direct@rcf.fr, au 04 72 38 20 23 et dans notre groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».
Jusqu'à 11h, « Je pense, donc j'agis » sur RCF.
Bonjour Anne Kerléo.
Bonjour Melchior Gormand.
Vous êtes la rédactrice en chef écologie RCF et avec vous ce matin, on se demande si numérique et écologie sont compatibles.
Oui, selon différentes études, le numérique est à l'origine d'environ 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et ces émissions ne sont que l'un des aspects de l'impact écologique du numérique. Pour la France, le ministère de la Transition écologique évoque 5 à 10% de l'impact environnemental du pays. Et cette empreinte numérique, en termes d'évolution, a été multipliée par 3 en 10 ans. Et ça devrait continuer de croître. Selon un certain nombre d'experts du domaine, la 5G devrait faire exploser ce phénomène en raison de la multiplication des usages du numérique. Pour rendre concrète cette évolution, voici un seul exemple. En 1984, on comptait dans le monde 1000 ordinateurs interconnectés. Et aujourd'hui, il y a sur la planète des dizaines de milliards d'objets connectés. Alors ce sont des ordinateurs, bien sûr, mais aussi des smartphones, des compteurs électriques, des montres, des voitures et tout un tas d'objets que l'on appelle intelligents. Et pourtant, le projet de loi Climat et Résilience, examiné actuellement en commission à l'Assemblée nationale, ne prévoit quasiment rien sur le sujet. Le gouvernement a présenté le 24 février une feuille de route numérique et environnement en 15 actions, parmi lesquelles la création d'un baromètre environnemental du numérique, mais les mesures proposées n'ont pas de caractère obligatoire. Alors jusqu'à 10h, nos deux intervenants vont nous aider à comprendre quel est concrètement l'impact environnemental du numérique et comment on pourrait le minimiser. Et nous ne ferons pas l'économie d'une réflexion sur les choix collectifs que notre société aura à faire si elle ne veut pas faire exploser les limites planétaires.
Et nous accueillons donc deux invités fins connaisseurs de cette question.
Lise Breteau, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes avocate spécialisée dans les nouvelles technologies et membre du collectif Green IT, la communauté des acteurs du numérique responsable, qui s'intéresse entre autres à la sobriété numérique, à l'éco-conception des services numériques, à la low-tech, on dira ce que c'est sans doute au cours de cette émission, et plus globalement à un avenir numérique alternatif. Et en ce moment, ce qui vous occupe beaucoup, c'est donc la fameuse loi climat, discutée depuis le 8 mars en commission à l'Assemblée nationale et qui arrivera en première lecture en plénière le 29 mars. Nous en parlerons d'ailleurs ce jour-là dans Je pense donc j'agis. Et puis bonjour à vous Guillaume Mandil.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes. Votre spécialité, c'est l'évaluation des impacts environnementaux des technologies en général et dont le numérique fait donc partie. Vous êtes membre de GSCOPE, un laboratoire pluridisciplinaire dont la vocation est de répondre aux défis scientifiques posés par les mutations du monde industriel en cours et à venir. Membre également de l'équipe STIP qui travaille sur les interactions entre facteurs numériques, environnementaux et sociaux. Et vous êtes avec nous depuis le studio de RCF Isère. Je remercie donc Nicolas Boutry pour sa collaboration technique à Grenoble.
Et merci à tous les deux de nous accompagner jusqu'à 10h ce matin. Comme chaque lundi, on va commencer avec une chronique. Tout est lié. On accueille Adrien Louande. Bonjour Adrien. Écologie et numérique sont-ils compatibles ? C'est donc la question que l'on se pose ce matin. Comment appréhendez-vous ce thème ?
Bonjour Melchior. Eh bien, j'aimerais prendre ce sujet de manière intégrale. Internet, d'après le pape François dans Fratelli Tutti, un outil qui peut être un don de Dieu. En effet, heureusement que nous avons Internet aujourd'hui pour garder bien des contacts, pour diffuser des informations, informations qui peuvent, jusqu'à un certain cas, produire des révolutions et des renversements de dictatures, comme lorsque l'on a vu pour le printemps arabe il y a quelques années. Et surtout, à l'heure du Covid-19, cela nous permet tout simplement de travailler. Bien utilisé, Internet est clairement bénéfique, et YouTube, pour ne citer que cette plateforme, peut être une mine d'or de science et de culture. De plus, imaginons un confinement strict, par exemple dans les années 60. Il aurait été bien plus complexe à supporter à certains égards. Ne voyons donc pas que ce qui ne va pas.
En tout cas, Adrien, on sait que le numérique pollue.
Mais oui, tout à fait, et à environ à hauteur de 4% des émissions mondiales, à la fois pour la fabrication de nos outils informatiques, hein, outils qui se fabriquent notamment avec des métaux rares extraits par les enfants en Afrique, mais aussi à cause du stockage de toutes nos données, comme celle des quelques 12 milliards de mails que nous envoyons chaque heure, ainsi que pour le fonctionnement général d'Internet. Citons aussi un chiffre que l'on dit assez rarement que 1% de la pollution mondiale est due à la pornographie. Bref, chacun peut ici voir qu'il s'agit d'un sujet complexe où, d'une fois de plus, tout est lié. Il ne s'agit pas uniquement de parler de pollution, mais bien d'appréhender cette question par une approche globale en prenant en compte une écologie humaine.
Est-ce qu'on a quelques données chiffrées autour du sujet ?
Oui, on en a beaucoup et je pense que vos invités développeront. Et par exemple, celle-ci, qu'à 13 ans, un garçon passe 102 jours par an, c'est-à-dire 28% de sa vie et 6,71 heures par jour, devant un écran, notamment donc pour consommer en masse de la pornographie. Hein. Car tout est fait sur Internet en général pour attirer l'attention, pour consommer puis pour jeter. Certains appellent cela justement l'économie de l'attention, c'est-à-dire que le numérique permet de protéger un moi fragile, en psychanalyse, un moi fragile, face au monde en le rendant inoffensif. Beaucoup de jeunes sur Internet sont alors les réceptacles de pensées standardisées, d'idées qui se diffusent dans des tweets sans nuance, sans caractère, que les réseaux sociaux, les réseaux asociaux diront certains, font qu'on amène à confondre communication et relation. D'ailleurs, au passage, ayant moi-même été pendant des années là-dedans et dans bien des jeux, et je peux vous dire que 7 heures numériques pour moi, c'était assez peu, je peux témoigner, comme des milliers de gens, que son usage est quelque chose d'addictif, fermant bien des horizons, et notamment l'horizon de la nature.
Il faut donc couper les écrans, Adrien, et se reconnecter à la nature.
Ben en partie, oui. Pour le philosophe Bernard Charbonneau, le sentiment de nature doit être aujourd'hui ce que la conscience de classe a été au socialisme, c'est-à-dire la raison faite chair. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la question numérique est aussi une question démocratique, philosophique, sociale, et que ben tout peut en partie partir de là. Un enfant qui passera ses vacances en colonie de vacances, par exemple, ou au scoutisme, sera bien plus à même de ne pas recevoir cette pensée standardisée dont nous parlions, et de découvrir, l'espace de quelques jours, de quoi vivre autre chose en collectif. Internet peut être très positif, mais il est donc nécessaire d'ouvrir d'autres horizons qui nous permettraient de bien plus reconnaître, par exemple, des essences d'arbres que des marques. Ce sont ces horizons, ces liens que nous retisserons et que beaucoup retissent déjà, qui nous donnent et nous donneront le courage indispensable pour passer à l'action, pour prendre de la hauteur et sortir en partie de ce monde qui est parfois asphyxié. Une écologie numérique réaffirme avec force qu'Internet est un outil au service de l'homme et non l'homme un esclave de l'outil.
Merci beaucoup Adrien Louandre et la semaine prochaine c'est François Mandil que nous retrouvons pour cette chronique Tout est lié que vous pouvez d'ailleurs réentendre en podcast sur notre site rcf.fr.
Alors on entre avec cette chronique Lise Breteau et Guillaume Mandil dans le sujet. C'est en tout cas la perception qu'Adrien, jeune homme de 25 ans, c'est la perception qu'il a du sujet. Qu'est-ce que ça vous inspire ce qu'il vient de dire ? Est-ce que vous avez envie de rebondir sur l'un ou l'autre des aspects de sa chronique, Guillaume Mandil ?
Mais alors moi je partage un point avec lui, c'est de dire que Internet ça doit rester un outil et que c'est pas à l'outil de définir les projets de société. Et du coup ben il faut repolitiser cette question de qu'est-ce qu'on veut comme société et quelle est la place du numérique dans ce projet sociopolitique. Je suis complètement d'accord avec ça.
Justement, repolitiser, ça veut dire sortir de ce qu'on a peut-être parfois tendance à faire, qui est de dire que, de faire comme si tout passait par les éco-gestes individuels et la manière de chacun, chaque consommateur que nous sommes, de se situer face à l'outil numérique.
Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a 2 ans à peu près, il y a le cabinet Carbone 4 là, qui avait sorti une étude qui s'appelle « Faire sa part » et qui se posait la question de quelle était la part des éco-gestes dans les impacts environnementaux pour essayer de faire rentrer la société française dans les objectifs de l'accord de Paris. Et ils avaient conclu que, pour en gros, les éco-gestes, ça représentait à peu près un quart de l'objectif. Ça veut dire que nos éco-gestes, bah, c'est pas tout à fait insignifiant, un quart de l'enjeu, c'est déjà pas mal. Mais par contre, il reste les 3/4 à décider collectivement et politiquement.
Lise Breteau, vous, qu'est-ce qui vous frappe ou vous séduit ou peut-être vous agace dans la chronique d'Adrien Louandre ?
Moi, ce que j'en retiens et ce que je rattache à ma pensée, c'est qu'on a besoin de passer d'une approche quantitative à une approche plus qualitative. Peut-être cesser de penser en tout numérique en permanence, peut-être cesser de parler en permanence de transformer numériquement l'ensemble de la société et l'ensemble de nos comportements et des services qui existent, et peut-être avoir une approche plus ciblée, décider de ce qu'on veut numériser ou pas. Parce qu'on n'est pas obligé de tout faire passer sur les réseaux.
Et pour vous, justement, cette décision, elle est, comme vient de le dire Guillaume Mandil, elle se joue plus au niveau collectif qu'au niveau individuel, ou c'est aussi une réflexion que chacun de nous peut avoir, celle que vous venez d'évoquer?
On est tous sur le même bateau. Donc, on doit tous prendre notre part. On peut pas opposer, à mon sens, les gestes individuels et les gestes collectifs. Tout doit aller de concert. C'est un petit peu la réflexion qu'on a dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est l'idée de dire que chacun doit prendre sa part. Chacun a un rôle à jouer. Et moi, plutôt que d'opposer le politique de l'individuel, le collectif de l'individuel, je dirais que tout le monde doit coopérer. Cela étant, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Guillaume Mandil. Les gestes individuels ne suffiront pas. Il faut que ce soit relayé par une décision politique et par une ambition politique forte.
Alors, quand on parle des impacts écologiques du numérique, de quoi on parle? Je vous propose qu'on essaye de regarder ça un petit peu concrètement. Souvent, on pense directement à on est en train de surfer sur Internet ou d'envoyer un mail. Mais il faut regarder aussi en amont. Si on regarde la production des outils numériques, quel est son impact et quelle est la part de cet impact dans l'impact global? Je ne sais pas lequel de vous deux veut se lancer d'abord. Lise Breteau, peut-être?
Là, je saurais pas vous donner des chiffres, je les connais pas par cœur. Par contre, il y a un chiffre que je connais, c'est que l'impact du numérique est dû à 80% à la fabrication des équipements et ensuite à 20% à leur utilisation. Donc il est absolument critique d'agir au niveau de la fabrication des équipements neufs. L'idée, c'est de réduire la production d'équipements neufs en faisant durer le plus longtemps possible les équipements et en ayant un usage un petit peu plus raisonné que celui qu'on a aujourd'hui où on va avoir tendance à jeter un équipement dès lors qu'on n'arrive plus à faire la dernière mise à jour du système d'exploitation, par exemple. Et c'est là, en fait, qu'est le cœur du problème actuel du numérique.
Guillaume Mandil, comment cette question-là, Lise Breteau se disait 80%, donc dans la fabrication des équipements neufs, comment ça se pose à l'échelon politique, cette question-là, pour vous?
Alors, ouais, de toute façon, enfin, elle a raison, hein, Lise, la phase de fabrication, c'est à peu près 80%, enfin, c'est la plus grosse part dans l'utilisation actuelle du numérique. Dire si c'est 80% ou 70 ou 90, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que ça dépend essentiellement des hypothèses qu'on fait sur la durée de vie de l'équipement, puis ça dépend aussi des estimations qu'on fait sur la phase de fabrication sur laquelle on a peu de données de la part des fabricants. Moi, quand j'essaye d'évaluer comment sont fabriqués le microprocesseur d'un téléphone, et que je pose des questions aux fabricants de processeurs, de savoir quels sont leurs procédés, etc. En général, on me répond que mes premières estimations que j'envoie avec cette question sont largement surestimées. Et quand je dis, bah, très bien, du coup, qu'est-ce que ça serait des estimations plus justes, j'ai jamais de réponse. Et donc, du coup, je finis par conclure honnêtement. Enfin, en tout cas, ma conclusion, c'est que mes premières estimations ne doivent pas être si fausses que ça, puisque on me donne pas les moyens d'avoir des informations plus précises qui feraient diminuer ces impacts. Donc, la question des impacts du numérique, il y a beaucoup d'incertitudes quant à cette question. Pour autant, les fabricants de smartphones, Samsung en tête par exemple, admettent facilement que avec des durées de vie de téléphone qui sont de quelques années, la phase de fabrication est celle qui génère le plus d'impact.
Quels sont ces impacts, donc, justement, peut-être concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire que le fait de fabriquer un smartphone pollue?
Ah oui, complètement. Et en fait, pour essayer de se rendre compte de qu'est-ce que ça peut être ces impacts, il faut voir dans quelles conditions sont extraits les matériaux qui servent à fabriquer ces choses-là. Et donc, par exemple, on peut penser au tantale qui est extrait dans des mines au Congo par des enfants, qui se fait dans des conditions socio-environnementales déplorables. Et ensuite aussi, une fois qu'on a extrait ces minerais, à la façon de les transformer entre de la roche et de la terre mêlée en un métal très très purifié. Et ces opérations-là, il y en a une bonne partie qui se déroule à proximité de la mine. Et ça génère en général des très gros problèmes d'eau potable, parce que pour purifier ces matériaux, les process chimiques qui sont mis en œuvre pour obtenir des métaux très purs, ça demande en général beaucoup d'eau dans les procédés, et ça génère à proximité de ces mines-là des très grosses pollutions des nappes phréatiques et des problèmes d'accès à de l'eau potable pour les gens qui sont là. Et puis à l'autre bout de la chaîne, vous avez parlé de la fabrication et de l'utilisation, mais il y a aussi la fin de vie de ces équipements, où on sait que ces équipements, il y en a un taux assez faible qui sont pris en charge par une filière de recyclage. On estime à peu près 20% des objets qui sont tracés et qui finissent dans la bonne filière, ce qui veut dire que 80% des équipements numériques finissent dans une filière de recyclage dite informelle, où on ne sait pas exactement ce qu'ils deviennent. Et puis même parmi les équipements qui finissent dans les filières de recyclage formel, on en retrouve des traces dans des décharges sauvages, par exemple au Ghana. Donc là aussi, ça génère de très gros impacts environnementaux, et puis des impacts sociaux aussi pour les gens qui, des impacts sanitaires, je veux dire, pour les gens qui travaillent dans ces filières de recyclage informel dans les pays d'Afrique de l'Ouest en général.
Et puis, alors après, si on passe à l'étape d'utilisation, il y a tout un aspect qui est souvent assez méconnu, mais qui est venu sur le devant de la scène ces derniers jours avec l'incendie qui s'est produit à Strasbourg d'un fameux data center. Alors peut-être nous expliquer ce que c'est que ces data centers, parce que on peut avoir l'impression quand on est devant son ordinateur que finalement on est en train de travailler sur du vent, sur quelque chose qui n'a pas d'impact, parce que ça nous paraît virtuel. Avec ces data centers, on découvre que c'est pas le cas. Lise Breteau, qu'est-ce que c'est qu'un data center ?
Un data center, en français, c'est un centre de données. On va dire que ce sont d'immenses serveurs de stockage de données et de traitement de données. Et ce sont les entrepôts qui permettent à chacun d'entre nous de se connecter cloud personnel, à notre cloud professionnel, à accéder à des données à distance. C'est sur ces gros serveurs que sont stockés tous les sites web. En général, personne n'a un serveur à la maison sur lequel il va stocker les données qu'il a sur son compte de messagerie en ligne, etc. Tout ça, ça se passe dans ce genre de centre de données. Donc c'est un élément critique pour le fonctionnement du web, et sachant que le web fait totalement partie intégrante de nos vies aujourd'hui, c'est un élément critique de nos vies aujourd'hui.
Alors justement, on entend beaucoup en termes de conseils aujourd'hui dans les médias dire, bah vous voyez, ça a brûlé, donc surtout stockez vos données chez vous aussi, Guillaume Mandil, du coup, ça nous encourage à double stocker et du coup à être encore plus polluant.
Du point de vue environnemental, c'est sûr. Ensuite, il y a une question qui est de savoir, est-ce que ces données sont critiques ? Est-ce qu'on en a besoin ? Lesquelles il faut absolument sauvegarder ? Desquelles on ne peut pas se passer ? Mais effectivement, la question des centres de données, c'est une façon de rematérialiser ce qu'est Internet. Internet, ce n'est pas un nuage dans lequel tout flotte. Il y a des très grosses fermes d'ordinateurs qui consomment beaucoup d'électricité pour la plupart, et qui consomment aussi beaucoup de matériel informatique, donc de matériaux rares, critiques, qu'il faut aller extraire dans les mines dont je vous ai parlé tout à l'heure.
En tout cas, c'était une panne pour RCF aussi. Il y a eu un impact, puisque tous nos podcasts, tout ce qu'on produisait à l'antenne ne pouvait pas arriver sur le site internet. Donc comme quoi, on est également très dépendant de ces data centers. Vous êtes sur RCF, il est 9h passé de 22 minutes. Ce matin, une question: écologie et numérique sont-ils compatibles ? Vous avez la parole pour partager vos réflexions, vos témoignages au 04 72 38 20 23 et par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand et Anne Kerléau.
Et avec deux invités jusqu'à 10h, Lise Breteau et Guillaume Mandil.
Alors, depuis le début de cette émission, on affirme que le numérique a un impact important, écologique important. C'est pas l'avis de tout le monde. Je me souviens qu'on avait reçu Melchior il y a quelque temps, l'économiste Christian de Pertuis, qui, parmi les points qu'il voit pour nous aider à vivre la transition écologique, eh bien, il cite le numérique. Et pour lui, le numérique va nous aider, au contraire, à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Alors, ce genre d'affirmation, on imagine bien tous les deux que c'est pas que vous adhérez pas, mais est-ce que c'est totalement faux et pourquoi des personnes disent ça de votre point de vue, Lise Breteau?
À mon sens, c'est un faux débat, c'est une fausse question. On peut pas opposer le numérique et l'écologie. On peut pas dire que le numérique n'a pas d'impact parce que il va nous aider à faire la transition écologique. Je pense que on peut tout à fait envisager les deux de front. Oui, le numérique va avoir un rôle à jouer dans la transition écologique. De toute façon, le numérique a un rôle à jouer dans nos vies aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de le supprimer purement et simplement, on en serait incapable. En revanche, il ne faut pas se cacher les yeux. Il faut être capable de reconnaître que le numérique a un impact et il faut travailler dessus, tout en reconnaissant que bien sûr qu'on en a besoin et bien sûr qu'on ne va pas abandonner le numérique.
Guillaume Mandil.
Ben, sur cette question, elle est compliquée parce qu'en fait, il faudrait se poser la question au-delà des impacts directs du numérique, de ce que sont les impacts de mon smartphone quand je le recharge ou quand je le fabrique, etc. Quels sont les impacts indirects de cette industrie-là et qu'est-ce qu'elle permet pour les autres pans de la société? Et cette question, elle n'est pas nouvelle. Hein. Elle avait déjà été abordée, par exemple, par l'économiste William Stanley Jevons en 1865, quand il était question du charbon et de la machine à vapeur. Et Jevons, il est le découvreur, si on peut dire, d'un paradoxe qui porte son nom, le paradoxe de Jevons, qui est aussi connu sur le nom d'effet rebond, et qui montrait que quand l'efficacité d'une technologie augmente, par exemple pour son cas l'efficacité de la machine à vapeur, c'est-à-dire que la machine à vapeur à l'époque de Jevons était capable de produire une puissance supérieure en augmentation par quantité de charbon consommé, et ben cette augmentation d'efficacité au niveau du procédé unitaire ne se traduisait pas au niveau global par une baisse de la consommation, mais par une augmentation de la consommation, parce que ce gain marginal d'efficacité se traduisait par une utilisation d'autant plus massive de la technologie en question. Et ce phénomène, on le retrouve tout à fait dans le numérique, c'est-à-dire que nos équipements, individuellement parlant, sont tous de plus en plus efficaces. Mon smartphone consomme moins que par unité de données transmises que celui que j'avais il y a 10 ans. Pour autant, comme je consomme beaucoup, beaucoup plus de données avec mon smartphone d'aujourd'hui qu'avec celui que j'avais il y a 10 ans, eh ben, ma consommation globale et les impacts environnementaux qui en sont associés sont en augmentation. Et donc, du coup, de dire que le numérique est un outil de la transition écologique, c'est à la fois vrai si on regarde du point de vue unitaire, etc., et à la fois complètement faux si on se pose la question à un niveau macroscopique et de se dire bah, finalement, en valeur absolue et pas en valeur relative par quantité de données transmises, les impacts environnementaux du numérique sont en croissance vertigineuse.
Ça se cristallise un peu sur la 5G, par exemple, ce débat-là.
Ben c'est, la 5G, c'est un exemple parfait de générateur d'effets rebonds. Oui.
Alors, qu'est-ce qui a été fait, Lise Breteau, jusqu'à présent pour prendre cette question à bras-le-corps, à la fois faire un état des lieux et puis trouver des solutions pour avancer? Est-ce que des choses sont déjà faites?
Alors, dans la loi, on a quelques dispositions qui ont été introduites récemment, dans les années 2010, on va dire, pour, par exemple, rendre visible le phénomène de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est désormais un délit qui existe dans le Code de la consommation depuis 2015. Et qui vise à rendre visible ce phénomène qui est en fait une technique par laquelle un producteur d'équipement numérique va chercher à réduire la durée de vie de l'équipement pour en augmenter le taux de remplacement. C'est la définition légale. Simplement, ce délit, il a été introduit dans la loi française, donc c'est intéressant parce que ça rend visible un phénomène. En revanche, en l'état, il est inapplicable. Les conditions sont trop dures, trop strictes, et la DGCCRF avait été saisie d'un dossier fondé sur ce grief.
Donc la DGCCRF, la Direction générale de la répression des fraudes et de la consommation, de la concurrence.
Voilà, absolument. Et elle a dû basculer sur un grief de droit commun, qu'on appelle les pratiques commerciales trompeuses, parce qu'elle ne pouvait pas caractériser ce délit spécifique qui était trop dur à prouver. Donc, à mon sens, c'est un exemple typique de ce qui se passe aujourd'hui dans la loi. Le sujet commence à émerger un petit peu, mais on a du mal aujourd'hui, parce qu'on apprend tous en marchant, on a du mal aujourd'hui à avoir une vision assez globale, assez correctement rédigée, assez synthétique pour avoir des textes efficaces. Et aujourd'hui, les textes sont extrêmement clairsemé sur le sujet. On a aujourd'hui une proposition de loi qui a été votée par le Sénat au mois de janvier, qui, elle, balaye beaucoup plus large que ce qui existe aujourd'hui en droit positif et qui est une belle avancée, une belle ambition pour essayer de rendre un petit peu plus durable notre univers numérique. Mais aujourd'hui, cette proposition de loi qui a passé le stade du Sénat est arrivée à l'Assemblée nationale qui, elle, a un agenda absolument surchargé et on ne sait pas quel sera le sort de cette proposition de loi, en tout cas dans la législature actuelle. Donc c'est toujours des avancées comme ça, mais toujours avec un côté un petit peu frustrant parce qu'on ne va pas au bout, on ne peut pas aller au bout, ou alors on agit, jusqu'à présent on a agi de manière un petit peu ébauchée, un petit peu maladroite, mais les choses sont en train de mûrir, de se stabiliser, et on attend de pouvoir avoir des textes qui entrent véritablement en vigueur.
Et ce projet de loi du Sénat est un peu noyé aussi hein, dans l'agenda, vous le disiez, de l'Assemblée nationale, occulté notamment par le fameux projet de loi climat-résilience. On l'évoquera tout à l'heure pour se dire que je crois qu'il y a très peu de choses concernant le numérique dedans. On y revient dans un instant, Melchior.
Oui, Élise Breteau parlait de l'obsolescence programmée. On en parlera justement à 10h dans la seconde partie de Je pense donc j'agis. Comment agir contre l'obsolescence programmée à travers l'action de deux associations. Vous êtes sur RCF 9h30. Vous l'entendez, on fait le lien entre économie et écologie et numérique ce matin dans cette émission. Vous continuez de nous joindre au 04 72 38 20 23. C'était Zazie sur RCF pour vous accompagner en ce lundi matin. Cyber, chanson sortie en 1998. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du Présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent des faits marquants et mettent en lumière leur incidence dans notre quotidien. Les Racines du Présent, c'est chaque lundi à 16h.
Aujourd'hui, en faisant un don régulier, vous aidez RCF. Oui, mais demain. Préparez l'avenir de votre radio en faisant dès à présent un leg, une donation ou en lui déléguant un contrat d'assurance vie. Un engagement de votre part qui permettra aux générations futures d'être accompagnées par RCF. Pour toute information, rendez-vous dès à présent sur rcf.fr/don. Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
Et on vous attend à l'antenne au 04 72 38 20 23. Deux invités qui nous accompagnent jusqu'à 10h, Lise Breteau et Guillaume Mandil.
Et on commençait d'évoquer ce qui se faisait, ce qui était en cours d'esquisse dans le domaine du droit. Mais peut-être qu'avant de se plonger dans ce qui commence à être fait, il faudrait regarder quelle est la feuille de route. En fait, on a du mal à voir, ça paraît quelque chose d'énorme, l'impact écologique du numérique, mais en fait quelque chose qu'on, en tout cas, que le citoyen moyen ne sait pas évaluer. Alors sans doute que vous savez un peu mieux. Dans quelle proportion faudrait-il diminuer cet impact? Quelles sont les balises en fait? On a l'accord de Paris pour ce qui est les émissions de gaz à effet de serre, mais qu'est-ce qu'on a, Guillaume Mandil, comme indicateur, comme balise pour nous dire un peu où il faudrait aller ?
C'est assez compliqué les problématiques environnementales parce que c'est multifactoriel et donc du coup on a parlé des gaz à effet de serre qui est en général l'impact qui est le mieux connu du grand public. Je vous ai un petit peu parlé des accès aux matériaux rares. Pour ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que y en a beaucoup dans un smartphone, hein, par exemple, de métaux. Et donc, du coup, il faudrait regarder métal par métal, par exemple, quels sont ceux qui sont concernés. Et puis, il y a encore pas mal d'autres facteurs, par exemple, les impacts sur la biodiversité ou des choses comme ça, et les pollutions diffuses. Par exemple, les accès aux ressources en eau dont je vous ai encore parlé. Et du coup, établir une feuille de route claire, c'est très difficile et c'est absolument subjectif. Ça veut dire que ça dépend des enjeux qui vous paraissent, me paraissent, nous paraissent les plus importants. Et ça, ce truc-là, ça peut varier suivant le territoire où on se situe, d'accord ? Si vous êtes à proximité de la mine de Coltran au Congo, ben vous n'avez peut-être pas les mêmes enjeux que si vous êtes à proximité d'une forêt qu'on va couper. Donc vous allez peut-être vous focaliser sur un impact plutôt qu'un autre. Par contre, le point commun qu'il y a entre tous ces impacts, c'est qu'on sait qu'ils sont tous reliés par la grande accélération et la surconsommation qu'on fait de ces équipements. On est absolument certain que d'essayer de rendre nos comportements plus sobres sur ces questions-là va être bénéfique sur l'ensemble de ces impacts environnementaux que je vous ai décrits.
Donc pour vous, la clé est du côté de la sobriété. Lise Breteau, c'est quelque chose que vous partagez, ça ?
Alors, oui, c'est quelque chose que je partage. Changer un petit peu nos comportements. Plus que de sobriété, je parlerais de rendre nos comportements plus durables. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut, sur lequel on a un levier. Excusez-moi, je vais recommencer ma phrase. Il y a une chose qui semble prioritaire aujourd'hui, c'est de développer beaucoup plus que ce qui est fait aujourd'hui la filière du reconditionné. Parce qu'en fait, effectivement, Guillaume Mandil évoque les extractions de métaux rares, les tensions sur l'eau, les pressions sur la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre, tout ça étant induit par la fabrication d'équipements neufs. Aujourd'hui, en France, on a un énorme vivier d'équipements qui ont déjà été fabriqués et qui dorment dans nos tiroirs. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que déjà, ça permettrait d'alléger la pression sur tout ce qu'on vient de dire, sur tous ces impacts néfastes sur la nature, si on pouvait réutiliser ces équipements et allonger leur durée de vie. Et c'est là-dessus que la loi peut intervenir, que les politiques publiques, de manière plus générale, peuvent intervenir pour développer des filières, des vraies filières économiques de masse, pour que on prenne un petit peu plus l'habitude au niveau individuel de recourir au reconditionné. Et ça pourrait, c'est un levier très fort, en tout cas à l'heure actuelle, en 2021, pour rendre le numérique plus durable.
Donc la sobriété, le recyclage, reconditionnement, et quid de l'innovation technologique ? Est-ce aussi pour vous une piste, Guillaume Mandil ?
Je crois que malheureusement, sur ce plan-là, si on fait un peu le bilan de l'histoire des sciences et des technologies et qu'on ne se concentre pas que sur le numérique, mais si on regarde un peu ce qu'il en a été, par exemple, pour l'accès à l'énergie, pour la mobilité ou pour les télécommunications en général, l'enseignement historique de la question, c'est que quand même, le développement des technologies s'accompagne toujours d'un effet rebond et d'une surconsommation gigantesque. Et que du coup, le développement technologique, il est plutôt toujours aligné avec une augmentation des impacts environnementaux. Et du coup, pour répondre aussi à l'affirmation de Christian Pertuis que vous aviez cité tout à l'heure, moi, il me semble que dans cette question de savoir si le numérique les effets induits indirects du numérique vont avoir des externalités positives, il s'agirait pour les promoteurs de cette idée-là de renverser la charge de la preuve et de nous démontrer, eux, comment ces impacts positifs, de façon globale, vont permettre de réduire la facture environnementale, parce que, historiquement, il n'y en a aucune preuve empirique.
Quand on évoque les low-tech, peut-être d'abord une petite définition. Qu'est-ce que c'est que les low-tech ?
Alors moi, je ne sais pas vraiment dire ce que c'est que les low-tech. Je sais de qui vient le terme. Il vient de Philippe Biwix, qui a créé ce néologisme en opposition au high-tech, en disant peut-être que la fuite en avant technologique, ou en tout cas en partant du constat que la fuite en avant technologique générait des impacts environnementaux, et il se pose la question de qu'est-ce que serait une technologie qui serait vertueuse dans le sens où elle répondrait à nos besoins sans générer d'effet rebond. Et il a créé ce terme sous forme un peu d'une boutade, de ce que j'en ai compris, sans qu'il ait de définition précise. Après, beaucoup d'acteurs s'en sont saisis, et quand on les interroge en général, finalement, on dérive plutôt vers une définition qui serait celle d'une technologie qui permet de répondre aux justes besoins. Mais c'est jamais facile de définir ce terme-là. En tout cas, il n'y a pas de consensus scientifique sur la définition de ce terme-là aujourd'hui.
Lise Breteau, sur cette question des low-tech.
Oui, alors effectivement, on n'a pas forcément de définition très stable, comme pour beaucoup de choses en matière de transition numérique ou écologique. Le message qu'il y a derrière quand même, c'est de dire on pourrait peut-être, au lieu d'avoir des petits bijoux de haute technologie sur lesquels on n'a aucune prise, on pourrait peut-être essayer de penser à une industrie numérique qui soit un petit peu plus robuste, un petit peu plus durable, plus réparable, et sur laquelle on a chacun d'entre nous, ou en tout cas sur lesquels on peut développer une expertise, et que on peut réparer, exploiter, faire durer, faire évoluer, sans que on ait entre les mains une espèce de boîte noire dans laquelle tout est soudé, tout est collé, tout est propriétaire, tout est fermé, mais qui soit une technologie un petit peu plus ouverte, un petit peu plus d'approche, on va dire, libre, hein, comme quand on parle des logiciels libres, où on peut tous aller mettre les mains dans le cambouis et devenir potentiellement des mécanos de notre propre technologie. C'est peut-être cette idée derrière de dire on doit pouvoir s'emparer de cette technologie et pas être simplement dépendant.
Ce que certains commencent déjà à faire à la marge dans les Repair Café dont on parlera tout à l'heure à partir de 10h. Les questions qu'on évoque ce matin, elles sont assez clivantes et génératrices de débats parfois assez violents. Et par exemple, on a pu entendre le président Emmanuel Macron dire qu'il refusait le retour de la lampe à huile ou du modèle Amish. Comment vous réagissez à ce genre de propos qui sont assez fréquents en fait, plus ou moins violents et plus ou moins absolus, mais comment ça vous... Qu'est-ce que ça provoque chez vous, Guillaume Mandil ?
Moi, je suis assez en colère quand j'entends ce genre de propos que je trouve extrêmement outranciers, parce que personne n'a... Il me semble que personne n'a jamais parlé de revenir au modèle des Amish ou n'a eu ce projet de société, puisqu'on parle de la Convention citoyenne pour le climat. Les demandes étaient beaucoup plus nuancées et nettement mieux argumentées que ça. Que ça concerne la 5G, que ça concerne le 110 km par heure sur l'autoroute. Et du coup, je trouve ça assez insultant pour l'intelligence de mes concitoyens de cliver le débat par des propos outranciers de cette façon-là. J'aimerais mieux entendre M. Macron sur savoir quelle est sa vraie feuille de route sur le numérique plutôt que de se mettre derrière un paravent sémantique. Ça me met assez en colère, ce genre de propos.
Et en même temps, est-ce que, Lise Breteau, ce genre de propos, alors tenu par d'autres, de manière peut-être moins outrancière, pour reprendre le terme employé par Guillaume Mandil, mais est-ce que ça manifeste pas aussi une peur, une inquiétude face à l'inconnu, au fait qu'il faudrait quitter le monde tel qu'il est et qu'on ne sait pas trop bien vers quoi on va ?
Non, ça c'est sûr qu'en ce moment, on ne sait pas trop bien vers quoi on va. Mais cela dit, c'est toujours... Enfin, moi, je trouve que c'est toujours dommage d'opposer une réflexion écologique et notre vie actuelle et la vie en société. Je trouve qu'il y a dans ce genre de petites phrases et de questions et d'attaques, je trouve qu'il y a je trouve que c'est un faux débat. Il est absolument fondamental aujourd'hui, il est essentiel aujourd'hui de se poser des questions sur l'avenir de la nature. On est dans un contexte qui est quand même extrêmement préoccupant. Donc je trouve qu'il est au moins légitime et au mieux absolument urgent de se poser ce genre de questions. Et je trouve que c'est une faute politique et morale de vouloir fermer la porte à ce genre de débat.
Et on continue d'en discuter ce matin jusqu'à 10h. Venez partager vos témoignages à l'antenne. Dites-nous si vous pensez qu'écologie et numérique sont compatibles. Et puis vous venez réagir également à ce que disent nos invités au 04 72 38 20 23. Et puis par mail également, toujours à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
Et on arrive tranquillement à la fin de cette première partie d'émission. Anne, toujours avec nos deux invités, Lise Breteau et Guillaume Mandil, qui nous accompagnent.
Oui, je vous propose qu'on évoque ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. Le projet de loi climat et résilience issu des travaux de la Convention citoyenne sur le climat est actuellement discuté en commission à l'Assemblée. Il arrivera en plénière le 29 mars. Et alors, il semblerait, Lise Breteau, qu'il n'y ait dans ce projet quasiment aucune mesure concernant le numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Effectivement, le projet de loi climat n'a pas repris les propositions de la Convention citoyenne pour le climat en matière de numérique. Le gouvernement a fait le choix d'envisager le numérique, non pas dans le projet de loi climat, mais dans une feuille de route interministérielle établie conjointement entre le secrétaire d'État au numérique et la ministre de l'écologie.
Mais donc la différence, c'est que ces 15 mesures ne sont pas contraignantes. Donc quel est l'intérêt de ces mesures en fait ?
Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Alors évidemment, on peut évidemment contester ce choix gouvernemental qui a été fait. Alors dans la feuille de route, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que quand on parle de rendre le numérique plus durable, il suffit pas de rédiger 10 articles de loi pour régler le problème. Il faut aller évidemment beaucoup plus loin que ça. Il faut prévoir des financements de filières, par exemple le reconditionnement. Il faut prévoir la formation. Formation de nos futurs talents en matière d'éco-conception de services numériques, par exemple. Il faut prévoir l'éducation de nos enfants aux enjeux environnementaux du numérique. Il faut prévoir tout un tas de choses sur notre usage individuel de nos smartphones et de nos équipements numériques. Donc, on peut comprendre le choix du gouvernement de pas avoir favorisé ce véhicule purement législatif, mais d'avoir utilisé un véhicule beaucoup plus large qui permet de toucher à la fois au financement, à la fois aux négociations de textes au niveau européen, parce que tout ne va pas se passer en France, à la fois d'envisager des futures lois au niveau national et d'envisager de donner davantage de rôle à des autorités administratives indépendantes. Donc la feuille de route, elle est beaucoup plus globale que ce qui aurait pu être fait dans le projet de loi climat. Cela étant, évidemment, on peut aussi discuter du niveau d'ambition qui est présent dans la feuille de route du gouvernement. Mais après, si on veut vraiment appliquer ce qui figure dans cette feuille de route, ça peut éventuellement aboutir à des résultats. Mais encore faut-il que les annonces qui sont faites dans la feuille de route soient véritablement exécutées et soient véritablement suivies au jour le jour.
Et vous faites partie des gens qui, pour Green IT, en ce qui vous concerne, vont veiller justement à ce que ce ne soit pas lettre morte.
Bien sûr.
Alors, on suivra ça de près. Guillaume Mandil, vous, comment vous réagissez à l'absence de mesures dans la loi climat et résilience et dans le choix autre que vient de nous décrire Lise Breteau?
Moi, je crois que c'est un problème d'agenda politique et de priorité politique, parce que si on écoute ce que nous disent les scientifiques du GIEC, pour répondre à votre question de tout à l'heure, on sait très bien vers quoi on va. On va vers un monde qui devient complètement invivable si on laisse les choses continuer à se développer, comme disait Denis Meadows, business as usual. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on fait le choix politique de renoncer à un peu de notre confort de vie et à une vie qui s'accélère et qui va toujours plus vite pour essayer de rentrer à l'intérieur des limites planétaires? Ou est-ce qu'on juge que on continue notre vie comme ça, quoi qu'il en coûte, et puis on sait à ce moment-là qui vont être également les premiers à trinquer de cette politique-là? Ça va être les plus vulnérables et les plus défavorisés. Et là, il y a un vrai choix politique de société. Est-ce qu'on fait une politique pour la majorité des humains et des non-humains qui habitent sur cette planète en essayant de limiter nos comportements qui génèrent beaucoup d'impact? Ou est-ce qu'on croit qu'on va pouvoir s'en sortir pour un petit nombre par des solutions technologiques?
Quel serait votre conseil justement à un citoyen qui nous écoute ce matin et qui se dit « bah ouais, là il y a un vrai enjeu et j'aimerais m'y impliquer au-delà des éco-gestes que je peux avoir sur la question numérique ». Comment il peut faire pour s'impliquer plus politiquement et que ça ait un impact de votre point de vue?
Toutes les associations qui militent pour des problématiques environnementales, ça me semble une bonne idée. Toutes les actions citoyennes qu'on peut faire de sensibilisation ou de discussion avec ses voisins, ses amis dans nos clubs et nos associations respectives. Ma première sensation, c'est que on n'a pas une conscience collective au bon niveau des enjeux qui sont ceux de la société technologique qu'on est en train de façonner et qui a déjà un problème de savoir de quoi on parle et d'éducation.
Donc commencer par s'informer peut-être et puis rejoindre des groupes et d'autres avec qui travailler. Et du côté des éco-gestes, Lise Breteau, peut-être quand même, on peut donner quelques clés. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour avoir une utilisation la plus vertueuse possible en l'état actuel des choses, des outils numériques?
Alors, premièrement, essayer de conserver le plus longtemps possible ces équipements, les chouchouter pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Essayer de pas racheter des choses neuves, de pas racheter des équipements neufs quand on a besoin d'en changer, préférer le reconditionner, et puis éviter de se suréquiper. éviter de d'acheter tout un tas de gadgets qui contiennent de l'électronique, qui contiennent du numérique. On n'a peut-être pas besoin d'avoir plein d'écrans à la maison, plein d'objets connectés. Peut-être qu'on peut rester simple et continuer à vivre bien.
Guillaume Mandil, quelques éco-gestes au quotidien ?
Essentiellement, je pense que d'essayer de freiner le renouvellement des équipements, comme le disait Lise. Et puis, peut-être pour essayer de tomber dans le côté qui verse vers le collectif et le politique, se poser la question de savoir de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin pour se sentir bien et heureux dans la vie. Et est-ce que avoir des likes sur son compte Facebook, c'est quelque chose qui nous importe vraiment ?
Et peut-être qu'on peut aller regarder du côté de ce que propose par exemple le philosophe Bruno Latour, qui à l'occasion du confinement propose de faire un exercice, de regarder qu'est-ce qu'on a découvert pendant le confinement, qu'est-ce qu'on a dû abandonner, et fort de tout ça, qu'est-ce qu'on choisit de conserver, qu'est-ce qu'on choisit d'abandonner définitivement. Je voudrais vous proposer un petit exercice de science-fiction. On est en 2035, dans 15 ans, le monde a réussi sa transition écologico-numérique, on va dire. À quoi ressemble-t-il ce monde, Guillaume Mandil ?
Pour moi, il ressemble à un monde qui a réussi à dénumériser une certaine partie des relations, à relocaliser les productions de biens essentiels de façon beaucoup plus territoriale, et où les chaînes d'approvisionnement de tout sont devenues beaucoup plus courtes pour les biens essentiels, c'est-à-dire que la nourriture est produite localement, l'énergie est produite aussi beaucoup plus localement et avec des sources moins fossiles. Et puis, on a réussi à essayer de se recentrer sur des valeurs humaines plutôt que d'essayer de croire en la technologie surpuissante.
Lise Brotteau, à quoi il ressemblerait le monde dans 15 ans si on réussissait à inverser la tendance ?
Oui, on n'aurait pas tout numérisé. Effectivement, on arrête de tout numériser. On choisit ce qu'on veut numériser. On utilise la high-tech pour des choses critiques, essentielles, pour la santé, pour les opérateurs d'importance vitale, puisqu'on a une législation sur les opérateurs d'importance vitale, la distribution de l'eau, les hôpitaux, les banques, etc., tous les services qui sont essentiels à la vie de la nation. Ça, on peut avoir de l'innovation et de la numérisation, mais sur notre vie au quotidien, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Et peut-être qu'on a plus envie, surtout en ce moment, d'avoir du vrai contact avec des vrais gens plutôt que par l'intermédiaire d'outils numériques.
Alors on sent à travers ce que vous dites tous les deux que vraiment la grande question finalement c'est celle du débat démocratique sur ces questions. Quel regard vous portez sur son état actuellement et quelles sont pour vous les pistes qui permettraient d'avancer, Guillaume Mandil ?
Moi je trouve que l'exercice de la Convention citoyenne pour le climat là c'était un très bon exercice parce qu'il montre selon moi une chose, c'est que quand on permet aux gens de prendre le temps de s'informer, à des citoyens tirés au hasard qui étaient vraiment statistiquement représentatifs de la population, qui prennent le temps de se documenter et de comprendre les enjeux du problème, finalement, ils sont capables de prendre des mesures qui sont autrement plus significatives du point de vue de leur impact que celles que prennent nos soi-disant représentants à l'Assemblée nationale, qui sont beaucoup plus à la merci d'un lobbying intense de la part de gens qui ont déjà beaucoup de pouvoir économique. Et du coup, je pense que le traitement qui a été fait de ces propositions montre pour moi un affaiblissement de la démocratie de nos institutions flagrant. Et je vous invite à en rediscuter, par exemple, avec Loïc Blondiaux, là, qui était un des garants de cette question-là, pour savoir à quel point cette séquence montre la faiblesse de la démocratie dans notre pays.
Lise Brotteau.
On se rend compte aujourd'hui que le numérique a des vrais enjeux politiques. Et on peut pas dire que c'est juste de l'innovation et que c'est exempt de toute notion de choix politique. Le numérique doit faire l'objet d'un débat politique et a une composante qui est fondamentalement politique. Et il est absolument passionnant de voir que, par exemple, la 5G a provoqué un vrai débat public, un vrai débat de société. C'était pas le cas pour la 4G, la 3G, etc. Donc, je trouve que notre période est très intéressante en ce sens que on se rend compte, on fait vraiment émerger et on rend vraiment visible l'enjeu politique du numérique. Et on peut tous s'en saisir. On peut tous, à notre niveau, dans notre vie, et pas seulement par des éco-gestes, faire vivre le débat politique. Par exemple, on peut proposer un projet sur la transition numérique et écologique dans les écoles de nos enfants, en tant que projet d'établissement. On peut tout à fait lancer ce débat dans notre entreprise ou parmi nos voisins éventuellement. Enfin, en ce moment, on n'a pas vraiment le droit de les voir. Mais,
en visio.
Voilà. Mais en tout cas, c'est un vrai débat qui peut se faire à tous les niveaux et dans toutes les instances parce qu'on est tous concernés.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous éclairer sur cette question qui est immense et qu'on n'a évidemment pas épuisée, mais ça a pu allumer quelque chose peut-être en termes de réflexion chez nos auditeurs et une envie de poursuivre.
Merci beaucoup Lise Brotteau, merci Guillaume Mandil, merci également à Nicolas Boutry qui vous accueillait du côté de Grenoble ce matin. Guillaume, merci Anne Carléo.
Merci Melchior, on se retrouve lundi.
Oui, lundi prochain, mais nous on va continuer dans ce sens, on va toujours parler écologie et numérique avec l'obsolescence programmée. On en a rapidement parlé, bah, ça va être l'occasion dans un instant d'agir contre l'obsolescence programmée avec nos deux invités qui vont nous rejoindre dans un instant. Vous continuez de nous joindre toujours au 04 72 38 20 23. À tout de suite.